Guerre, comment évoquer ces sujets avec eux? Quels mots choisir? Jusqu'où peut-on aller? On en discute avec Fabienne Cochère, pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire.
Il faut bien comprendre que les enfants, ils perçoivent beaucoup de choses et qu'ils sont beaucoup plus sensibles au langage émotionnel qu'au langage en lui-même, hein, et que la compréhension des émotions précède la compréhension du langage. Hein. Le bébé, c'est un être d'interaction. Hein. Donc, très tôt, si, par exemple, une maman ne va pas bien et qu'elle va avoir moins d'interaction avec son bébé, bah, le bébé, il va faire ce qu'on appelle un retrait relationnel parce qu'il ne peut pas engager de relation. Donc, très tôt, les enfants, comme ce sont le petit humain, c'est un être de communication. Donc, en fait, il ne cherche que ça, hein. Il ne cherche que la communication. Donc très tôt, il va être sensible à ce défaut de communication. Donc si une maman, si un papa ou si une personne qui s'occupe d'un enfant ne va pas bien, indirectement, il n'y a pas d'interaction avec le bébé il va se mettre en retrait et ça a un impact sur son développement.
Le choix peut être difficile, hein, entre parler ou préserver son enfant, c'est une véritable gymnastique.
C'est un peu une gymnastique, c'est pas facile parce que il y a des parents qui veulent trop préserver leur enfant et de vouloir trop préserver, bah, ça va pas vraiment les préparer à la vraie vie parce que ce que je dis souvent aux enfants, parce que moi je vois beaucoup d'enfants qui ont des troubles du comportement et souvent je leur dis, ah bah oui, mais papa, maman, quand ils rentrent le soir, ils ont déjà la journée de travail derrière eux, ils ont pas que à s'occuper de vous, donc c'est une double tâche importante et c'est quelque chose qu'il faut dire aux enfants, c'est-à-dire que il faut leur faire comprendre que on est content d'avoir des enfants, qu'on est content de passer du bon temps avec eux et que pour que tout se passe bien, il vaut mieux que chacun mette un peu, y mette du sien, il y a des choses difficiles, il y a le monde du travail qui parfois peut être difficile, que les papas, les mamans peuvent avoir des soucis liés au travail, liés à la maladie. Après, il ne faut pas tout leur dire aux enfants non plus. C'est-à-dire que comment leur parler, je ne sais pas trop, de la maladie de la grand-mère. Ben oui, on peut dire que la grand-mère est malade, mais que elle est soignée par de bons médecins, qu'on a confiance aux médecins. C'est-à-dire que faut pas cacher la réalité, mais quand même présenter des solutions. Oui, la grand-mère est malade, mais il y a les docteurs qui la soignent. On est inquiet parce que papa n'a pas de travail en ce moment, mais il est en recherche d'emploi, on a confiance. C'est-à-dire que parler des choses, mais aussi laisser une fenêtre ouverte vers des solutions. On peut parler aux enfants très très tôt. Il faut toujours avoir en tête que la compréhension précède la production verbale. Donc les enfants, ils comprennent les choses très très tôt et comme je vous l'ai dit, ils comprennent aussi les émotions. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus sensibles à la manière dont les choses sont dites qu'aux événements en eux-mêmes. Vous pouvez dire des choses dramatiques à un enfant, mais si vous avez un ton enjoué, l'enfant va retenir le contexte dans lequel c'est dit. Par contre, si vous dites quelque chose qui finalement n'est pas très très grave, mais que vous avez une mine complètement affectée, vous êtes dans du, enfin, vous êtes pas souriant, là ça va prendre beaucoup beaucoup de valeur pour l'enfant. Ils sont très, c'est-à-dire que les enfants sont très sensibles à l'expression du visage, c'est-à-dire que les neurones miroirs, vous savez, où les enfants ils font comme l'adulte, c'est très très tôt. C'est-à-dire que la maman sourit, l'enfant sourit. Si vous dites quelque chose à un enfant, même si c'est quelque chose qui est banal, mais que vous avez une mimique complètement dépressive, l'enfant va retenir l'émotion, le contexte émotionnel. Mais sinon, on peut parler aux enfants très très tôt. Les enfants ressentent les choses et puis les enfants ont des habitudes. Les enfants ont des habitudes. Très tôt, les enfants, ils savent très bien, ils prennent des repères dans la journée, ils repèrent très bien ce qui se passe quand ils sont à la crèche, hein. C'est-à-dire le moment du repas, le moment de la sieste, le moment où les papas, les mamans arrivent. Donc, si un jour, le parent sait qu'il va venir un peu plus tard, il y a tout intérêt à le dire. J'aurai un peu de retard par rapport à l'arrivée des mamans. On n'a pas l'impression que l'enfant va comprendre. Mais c'est, en fait, c'est multimodal. Hein. Ce n'est pas que le langage, c'est aussi l'enfant prend des repères dans le temps comme ça. Et si on a anticipé, et si tout le monde dit, bah oui, aujourd'hui, maman arrive plus tard, tout ça, c'est apprentissage. C'est-à-dire que une situation qui, d'un côté, pourrait être très stressante, parce qu'on n'a pas préparé l'enfant, qui voit arriver toutes les mamans et que lui, il est toujours là. Si on l'a bien préparé et que finalement la maman arrive et que tout se passe bien, bah, il va avoir appris que, bah oui, maman est venue un peu plus tard, mais c'est pas grave.
Venons-en au cœur du sujet. Comment évoquer un sujet difficile? Est-ce qu'il y a une méthode à suivre, des règles, par exemple, quand on veut évoquer un décès?
Je dirais que le plus simple, c'est d'être naturel et de ne pas cacher les choses. Cacher les choses, c'est toujours délétère. Donc, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il faut attendre que l'enfant pose une question, mais le plus souvent, l'enfant a déjà perçu et bien perçu les choses. Alors ça concerne les événements familiaux. Après, concernant des événements dramatiques, ben on en a beaucoup parlé pendant la période de la crise de la Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler aux enfants? De toute manière, les enfants, ils ont eu un tel bouleversement du jour au lendemain, on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus aller voir les papis, les mamies. Donc, naturellement, il fallait expliquer avec des paroles d'enfants ce qui se passait. C'est un bon exemple. Actuellement, la mort est un peu tabou dans nos sociétés. Donc, il y a des personnes qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais été confrontées à la mort. Et ça, c'est... Bon, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est-à-dire qu'il est bon de dire à un enfant que la vie, c'est quelque chose... C'est un renouvellement perpétuel et puis qu'on naît, on grandit, on devient adulte et puis que ça s'arrête un jour. Il est bon que l'enfant apprenne ça de manière tout à fait naturelle. Parce que si vous faites croire à un enfant que tout le monde est éternel, c'est sûr que ça risque d'être compliqué. Et puis, lorsque la dure réalité va s'imposer, l'enfant va être très, très affecté par ça. Hein. C'est-à-dire que il faut être... Ça paraît tout à fait naturel d'expliquer à un enfant que le cours de la vie, malheureusement, c'est pas toujours fait. C'est pas toujours fait ça. Et maintenant, concernant le décès, très souvent... Les parents veulent épargner les enfants. Ils ne les emmènent pas aux obsèques. Alors que moi, c'est bien que les enfants vivent les choses. Alors souvent, quand il y a des enfants qui ont assisté à des obsèques, souvent ils disent que c'était triste. Mais c'est bien aussi de vivre ça. C'est bien aussi de vivre ça et... Un enfant qui a 5-6 ans peut très bien assister à des obsèques, surtout si, par exemple, c'est un grand-père, une grand-mère. Bien entendu qu'il va être triste, mais il y a quand même une génération, et la génération de ses parents, entre lui et la personne décédée. Donc du coup, c'est quelque chose qui est psychologiquement moins compliqué. Quand il perd ses propres parents. Mais actuellement, très souvent, les parents veulent préserver les enfants et ils disent non, on ne va pas les emmener aux obsèques parce que c'est trop difficile pour eux. Finalement, il y a un cousin qui va les garder et puis il va faire des jeux avec eux pendant qu'il y a les obsèques. C'est pas une excellente idée quand même. Il vaut mieux que les enfants, ils arrivent à tout comprendre à partir du moment où on leur explique. Ils arrivent à tout comprendre. Alors, je ne dis pas qu'il faut les faire assister à l'ensemble d'une cérémonie d'obsèques si c'est très très long, mais on a des gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais assisté à des obsèques. Moi, quand j'étais enfant, j'étais dans un village, on assistait à toutes les obsèques. Et c'est pas plus douloureux. Et d'être confronté à la mort aussi quand on n'est pas impacté sur un plan affectif, c'est plus facile. Alors que maintenant, les enfants, le plus souvent, sont confrontés à la mort déjà quand il y a un lien affectif très important. Donc, c'est pas bien de ne pas parler du tout de la mort aux enfants.
Parmi les sujets difficiles à évoquer, encore une fois, dans le cadre familial, c'est le cas de la séparation des parents.
Quand il y a des soucis familiaux, le non-dit est toujours délétère. Parce que l'enfant sent qu'il y a quelque chose, et tant qu'il ne sait pas ce qui se passe, à la limite, il va presque se sentir coupable. Après, ce que dire, est-ce que c'est pas à cause de moi, hein? Après, il y a aussi la question des séparations parentales, parce qu'il y a énormément de parents qui se séparent. Là aussi, être franc avec l'enfant et surtout éviter de reporter des conflits personnels sur l'enfant. Et ne pas se servir de l'enfant comme bouc émissaire. Dire, ta mère est méchante. Après, ça met l'enfant au cœur d'un conflit de loyauté. Ça, c'est ingérable pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont obligés, tout petits, de cloisonner entre ce qui se passe chez papa et ce qui se passe chez maman. Ça, c'est extrêmement délétère pour le développement des enfants. Donc, parler aux enfants, leur expliquer les choses, et puis avoir une position d'adulte et ne pas le mettre au cœur de conflits. On a des exemples. Si ta mère avait pas fait ça, on se serait pas séparés. C'est terrible de dire ça à un enfant. Ne pas mettre l'enfant au cœur de conflits, parce que en fait c'est toujours la même chose. L'enfant, il est capable de comprendre beaucoup de choses. Il est extrêmement sensible aux émotions. Il vaut mieux lui dire les choses que de lui cacher, et il ne faut pas le mettre au cœur de conflits. Il faut éviter les conflits de loyauté.
Au-delà du cadre familial, l'actualité peut aussi générer son lot d'informations négatives. On pense à la guerre, aux épidémies. On a connu la crise sanitaire il y a peu de temps. Comment on fait encore une fois pour en parler aux enfants? Est-ce qu'il faut attendre qu'ils viennent en discuter avec nous?
Tout dépend de l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que ce que l'on déconseille toujours aux parents, c'est de laisser le poste de télévision allumé pendant le repas et pendant les informations télévisées. Parce que là, l'enfant se prend plein d'images sans comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est hautement délétère. Donc, après, ça dépend de l'âge de l'enfant. On va commencer par expliquer ce qui concerne l'enfant. La crise du Covid, bien entendu qu'il fallait en parler à tous les enfants, puisque tous les enfants étaient confrontés aux conséquences de la pandémie. Si se passe quelque chose à l'école. Alors, vous savez, à un certain moment, il y a eu des enfants qui ont été traumatisés par les exercices d'alerte, alerte enlèvement dans les écoles. Il y avait des alertes attentats. Ça a beaucoup, beaucoup traumatisé les enfants, ça. Tout simplement parce que ça a été très violent. C'était pas expliqué avant. Mais quand il se passe quelque chose qui concerne l'enfant, il s'est passé, surtout si l'enfant en entend parler, il entend parler d'une alerte d'un attentat dans une école, il va forcément en entendre parler par les copains, il y en a qui ont vu. À ce moment-là, bien entendu qu'il faut lui en parler avec un langage qu'il est capable de comprendre. Maintenant, on ne va pas parler de la guerre en Ukraine à un enfant de 2 ans et demi ou de 3 ans, sauf si il est concerné par les événements. Un enfant qui voit arriver des petits réfugiés ukrainiens dans son école, ça va être l'occasion de parler d'une guerre qui se passe dans ce pays-là avec des mots qu'il est capable de comprendre.
Merci Fabienne Cochère. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Les autres podcasts de ce dossier lié à la parentalité sont à retrouver sur vibration.fr, rubrique podcast.
Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM.
This ain't Texas, ooh. Ain't no hold'em, hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, ooh. And throw your keys up, hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come throw some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. In my city, in the basement. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. this week, redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left, then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. Come take it to the floor. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now.
Côte de Bordeaux, parole de vigneron.
Les 13 et 14 avril, c'est le printemps des vins de Blaye.
Venez découvrir nos vins et participer à nos ateliers et animations.
Nous serons 100 vignerons dans la citadelle de Blaye. Info sur vin-blaye.com.
Blaye, Côte de Bordeaux, parole de vigneron.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the floor now, ooh. Take it to the floor now, ooh.
Oops, splash.
To the floor now, ooh. Take it to the floor now. Ooh.
And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. Spurs, boots, sodogenic, photogenic, shoot.
Bienvenue sur 8FM, la seule radio où vous pouvez découvrir en version étendue les meilleures interviews. Bonne nuit avec nous sur 8FM.
Je suis Anne-Sophie Vive, je suis directrice de l'association Elburn, plus connue sous le nom d'Elburnet. Qu'est-ce que vous allez proposer durant ce festival? Quelle thématique est-ce que vous proposez?
Alors, on va essayer d'aborder un sujet dont on parle peu souvent, c'est-à-dire le burn-out parental. On parle beaucoup du burn-out professionnel et moins du burn-out parental qui touche quand même 5 à 8% des parents. Et 34% des parents se sentent concernés. Donc, c'est quand même un sujet qui est prégnant. Mais on va l'aborder de façon ludique, divertissante, mais aussi de façon informative. C'est-à-dire qu'on va proposer donc sur la thématique parents imparfaits, parents épuisés, pour parler à travers des scénettes d'improvisation de nos tranches de vie. On aura briefé donc une compagnie de théâtre qui va justement improviser sur cette thématique-là. Et nous, en tant qu'association spécialisée sur cette question, avec une psychologue spécialisée, Mélanie Balès, on va pouvoir rebondir sur ces scénettes, dire ce qui se passe, ce qui est vrai, ce qui sortir des idées reçues peut-être, et donner des pistes d'action, donner des pistes, des éléments de repérage pour savoir quand est-ce qu'on bascule de je suis épuisée à je suis effondrée en fait. Voilà, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, c'est pour le grand public, parce qu'on est tous parents ou aidants de parents ou famille de parents, on est tous des sentinelles pour pouvoir aider des familles à ne pas basculer dans le burn-out. Bon, j'imagine que l'épuisement parental, enfin, on va pas dire que ça a toujours été, mais est-ce que voilà, il y a une étape qui a été franchie peut-être ces dernières années avec des fois les réseaux sociaux, l'éducation positive, etc. Est-ce que c'est ça qui a amené peut-être à cet effondrement pour certains parents?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'avec l'avènement de la psychologie positive dans les années 70-80, on a commencé à changer le prisme de l'éducation avec tout un tas d'injonctions de perfection pesant sur la tête des parents, avec beaucoup moins de on peut plus punir les enfants. C'est vraiment le bien-être de l'enfant, en tout cas, qui est mis au centre de la relation. Du coup, on en a oublié le bien-être aussi des parents, parce que pour être un bon parent, il faut être bien soi-même, en fait. Mais c'est aussi lié à l'évolution de la sphère familiale, avec des familles monoparentales où il y a sur un parent repose toute une charge mentale, toute la charge du foyer, avec des familles où on n'a plus les grands-parents pour aider, où les femmes ont accédé au milieu du travail mais sans être déchargées derrière. Et puis aussi ce phénomène, en effet, des réseaux sociaux où on rend parfait, en fait, on renvoie une image du parent parfait qu'on devrait atteindre. Et donc on a des parents, en fait, qu'on veut déculpabiliser parce qu'ils sont dans cette obligation de faire bien, d'être des bons parents, de cuisiner bio, de faire 50 000 activités assurées pour les enfants pour qu'ils se sentent bien, des choses qu'on n'avait pas il y a encore quelques décennies. Donc c'est une énorme charge, une énorme responsabilité qu'on fait peser sur les parents. Là, l'idée, c'est de dire on est tous imparfaits et c'est OK, en fait. On peut être de bons parents, même si on n'a pas prévu 50 activités pour son enfant, même si on ne l'a pas animé. On peut être aussi des bons parents comme ça. On voit bien que la prévalence des parents, ce n'est pas forcément lié à la catégorie socio-professionnelle. Il va y avoir des facteurs individuels, c'est-à-dire des parents qui sont très perfectionnistes, par exemple, mais il peut y avoir aussi des facteurs externes, c'est-à-dire, par exemple, des parents qui vont avoir des enfants porteurs de handicap, ou des enfants qui vont être plus difficiles, ou des enfants qui ne vont pas dormir la nuit. Ça aussi, ça va être des facteurs de risque pour eux. Donc c'est là où il y a un intérêt à savoir quels sont leurs facteurs de risque, internes, externes, quelles sont leurs ressources et sur quoi on peut jouer, en fait.
Et à quel moment est-ce qu'il faut, on va dire, demander de l'aide? À quel moment, ouais, on sent que ça va basculer et ça peut avoir aussi un effet sur ses enfants, sur la parentalité? Quels sont un peu vos conseils?
Alors c'est vrai qu'il y a un certain stade où il va falloir avoir une aide extérieure parce que ça va être difficile. Le déni fait partie du processus de burn-out et donc souvent on va pas le voir. Les personnes consultent pas pour épuisement, elles vont consulter parce que mon enfant est difficile, parce que donc en fait un parent qui se reconnaît plus en tant que parent, qui va malheureusement avoir une vision très dégradée de son rôle de parent, un parent qui va être très irritable, qui va pouvoir par exemple crier sur ses enfants alors qu'avant il ne le faisait pas, un parent qui va avoir des troubles du sommeil, qui va avoir du mal à récupérer, c'est pas juste la petite fatigue ou 3-4 nuits de sommeil et c'est bon, des vacances et c'est bon, non, c'est une fatigue qui se récupère pas, en fait. Et puis enfin c'est un parent qui va être en pilote automatique, qui va faire ses tâches ménagères parce qu'il faut les faire, mais en se distanciant effectivement de ses enfants, en fait. C'est-à-dire que on a des parents malheureusement qui ne ressentent plus d'affection pour leurs enfants. Parfois, leurs enfants, c'est un peu comme des éléments qui vont les tirer vers le bas. Et parfois, ils ont juste envie de partir, d'être dans une bulle et de plus être là, quoi. Mmh. Donc, vraiment, là, il faut vraiment consulter quand on est dans ce cadre-là, avoir de l'aide extérieure, avoir de l'aide de personnes qui les comprennent, parce que ça peut être extrêmement... On est encore très culpabilisant sur les personnes qui vivent un burn-out, notamment un burn-out parental, parce que peut-être qu'elle ne travaille pas. Et alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu fais un burn-out? Tu n'as qu'un enfant, pourquoi tu fais un burn-out? Moi, je m'en suis sortie. La société est encore très difficile avec ces personnes-là. Et donc, avoir une parole très bienveillante, comprendre, même si les parents peuvent avoir parfois des propos durs, mais ils ont besoin d'être accompagnés, d'être compris dans cette phase-là. Et ensuite, les aider à mettre en place des leviers qui puissent les aider.
Et est-ce que d'ailleurs, vous formez des gens? Est-ce que vous essayez de mettre en place des formations ou de faire passer ce message qu'il faut aider, qu'il ne faut pas faire culpabiliser les parents?
Oui, alors on a mis en place des formations justement pour l'aide au repérage, l'aide à l'action, comment je parle à quelqu'un qui est en train de faire un burn-out, parce que la personne elle peut réagir soit en déni total, et donc elle va dire qu'il n'y a aucun problème, que le problème vient d'ailleurs, soit en réaction de colère, et donc on va avoir tendance à aller voir la personne et pas aller la revoir en fait, elle va rejeter souvent l'aide. Donc on aide les personnes à savoir quoi dire, comment réagir, vers qui orienter, quels sont les acteurs, et ensuite à orienter vers notamment l'association pour une prise en charge beaucoup plus globale prise en charge.
Et ça, c'est au sein de votre association, oui, que vous mettez en place?
On met en place ces formations, que ce soit pour les entreprises quand c'est du burn-out professionnel, mais on est en train de le développer pour les particuliers aussi.
Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci.
Alors bonjour, Ethel Le Bobinec, présidente de Vous comme elle.
D'accord, très bien. Alors du coup, est-ce que vous pouvez déjà commencer par m'expliquer un petit peu ce qu'est le rallye des pépites, comment ça s'est construit?
Le rallye des pépites, en fait, c'est un jeu de piste à travers les entreprises sur un territoire, donc là en l'occurrence la métropole bordelaise, ouvert à des équipages du grand public. Donc par quatre, on va dispatcher ces équipages le matin qu'on a rassemblés sur un village de départ. On va les envoyer découvrir des entreprises de la métropole et ils vont aller d'entreprise en entreprise toute la journée sous un format original qui est un vie ma vie métier. Les collaborateurs ne vont pas leur faire visiter leur entreprise, mais bien leur présenter leur métier en leur lançant des défis métiers.
D'accord. Quel est le but en fait de ce rallye? Qu'est-ce que vous aviez envie de faire ressortir?
Alors l'objectif, c'est de casser les stéréotypes du monde de l'entreprise, rapprocher le grand public du monde de l'entreprise. Et cerise sur le gâteau, on parle de la femme par l'exemple. Donc on parle de mixité professionnelle et quand on parle de stéréotypes, c'est aussi la place de la femme en entreprise.
Ça va être la 10e année du coup que vous mettez en place ce rallye le 9 mars prochain. Et vous avez entre-temps décidé de faire une BD. Pourquoi s'être lancé dans cette aventure de la BD?
Alors, effectivement, on pourrait croire que ça date d'hier, mais non. Dès que le rallye a été créé, on avait bien en tête de se lancer aussi sur ce support ludique, puisque finalement, le rallye Pépite, c'est un support ludique, mais avec un enjeu de fond sérieux. La BD, c'est la même chose, support qui se veut ludique. On dit souvent que c'est fait pour les enfants, mais pas toujours. Ça peut être aussi sérieux. Et le même objectif, c'était de casser les stéréotypes du monde de l'entreprise. Donc là, on est parti carrément sur un équipage stéréotypé, trois jeunes femmes et un homme, qui vont évoluer dans leur représentation tout en jouant un rallye, finalement, avec des anciennes pépites. Et donc, ce ne seront que des femmes chefs d'entreprise ou directrices d'entreprise.
Et à qui il s'adresse, du coup, à qui elle s'adresse cette BD? À qui est-ce qu'elle va être distribuée?
Alors effectivement, l'objectif c'est justement d'agrandir la visibilité et les messages portés par cet événement, donc avoir le plus d'impact social possible. Donc on va le distribuer gratuitement et numériquement à l'ensemble des établissements scolaires de Nouvelle-Aquitaine. À ce titre d'ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine nous a subventionné une partie de ce projet, voilà. Et puis après il y aura des albums papier collector, puisque bon, c'est toujours sympa d'en avoir dans les mains, de pouvoir toucher tout ça. Voilà.
Est-ce que en 10 ans, il y a eu des changements, enfin grâce au rallye, du coup, des pépites, là je reviens sur le rallye, voilà, est-ce que ça a permis des changements dans la façon de voir l'entreprise, de voir l'entrepreneuriat féminin? Comment est-ce que vous l'évaluez, ça?
Alors, on ne le mesure pas directement, mais c'est vrai que déjà, ne serait-ce qu'à commencer par les entreprises qui accueillent, ça leur permet de faire un arrêt sur image sur ce qu'ils font sur le sujet. Donc on a des entreprises exemplaires qui vont inspirer d'autres, les participants, mais on a des entreprises qui n'ont absolument rien fait sur le sujet, qui du fait de s'adosser à l'événement vont se poser la question et vont se demander ce qu'ils peuvent faire pour faire évoluer les choses au sein de leur entreprise. Donc ça, c'est déjà intéressant. On a eu ensuite au niveau des participants des personnes qui ont osé créer leur entreprise suite à leur participation au rallye. L'effervescence et la dynamique dynamique de la journée leur a fait dire qu'il fallait créer leur entreprise. Et symboliquement, d'ailleurs, je me souviens très bien, dès les premières éditions, une jeune femme équipage a créé son entreprise l'année d'après. Et du coup, elle a voulu être étape symboliquement l'édition suivante. Donc ça, c'est superbe. Et puis, on a vu aussi des entreprises recruter des femmes spécifiquement dans des métiers où on les attendait pas, notamment l'industrie. Je pense à une particulièrement à Pau, en mécanique de précision. Voilà.
Et il faut continuer à proposer ce rallye, faire on n'est pas arriver à une pour vous il faut continuer à proposer ce rallye pour continuer à ouvrir les portes de ces entreprises au grand public,
Oui, complètement, c'est important parce qu'on l'a vu pendant la Covid, on a comme partenaire l'État, la délégation aux droits des femmes, qui nous a dit qu'il y avait une régression à ce niveau-là, au niveau de la place des femmes dans l'entreprise, puisque finalement elles se sont retrouvées à garder les enfants. Donc ça, c'est une réalité. Après, aujourd'hui, on a des dérivés, on fait des rallyes emploi, des rallyes orientation métier, et on se rend compte que c'est très intéressant et important de montrer des exemples féminins, puisque les jeunes on a envie de traiter ce sujet-là, et différemment de nos aînés. Donc oui, il faut continuer.
Clara Maumont, directrice générale de l'entreprise Vous comme elle.
D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette BD, comment elle s'est élaborée, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur?
Alors la BD, c'est ni plus ni moins que le rendu d'un rallye des pépites réel, puisque on est allé chercher des entreprises qui ont déjà participé en tant qu'étape à nos rallyes, et donc on s'est inspiré de leur contenu, donc à savoir les défis métiers qu'elles ont fait vivre aux participants. Et donc on a un équipage un peu stéréotypé, inspiré de participants que l'on a pu avoir et rencontrer sur nos différents événements, qui va aller donc d'entreprise en entreprise, où ils vont être accueillis par les salariés, dirigeantes, pour le coup, de ces entreprises, et qui vont leur faire vivre leur métier. Donc on est vraiment sur des contenus inspirés de faits réels pour faire vivre le rallye des pépites aux lecteurs.
Ouais, c'est ça, vous vous êtes inspiré de tout ce qui a pu se passer ces 10 dernières années lors de ces journées.
Exactement, on a été récolté auprès d'entreprises, auprès des bénévoles qui nous accompagnent le jour J, auprès de nos participants, un certain nombre d'anecdotes pour essayer de coller au plus proche de l'événement. Et d'ailleurs, le script doctor et l'illustratrice qui nous ont accompagnés sur la réalisation de cette bande dessinée ont eux-mêmes participé à l'événement avant de se lancer dans l'écriture de cette bande dessinée pour pouvoir coller toujours au plus proche de la réalité de l'événement.
J'ai lu les premières pages, on voit le monsieur là de l'équipage qui est pas forcément très inspiré, pas très envie d'aller faire ce rallye. J'ai pas lu la suite, mais j'imagine que peut-être à la fin ça lui a permis de voir pas mal de choses et d'être plutôt contente de cette journée. C'est un peu ce qui se passe des fois, certaines viennent à reculons et puis finalement à la fin de la journée sont plutôt contents.
Alors oui, effectivement, ça peut arriver. On a différents publics, de personnes qui sont un peu éloignées du sujet de la mixité parce qu'ils pensent que c'est pas un sujet et qui finalement se rendent compte dans la journée que si, les sujets existent encore. Des jeunes qui pensaient venir à un rallye automobile alors qu'en fait ils se rendent compte qu'on vient pour découvrir des entreprises et du coup qui sont dithyrambiques en fin de journée. Et puis ça peut aussi être des personnes qui savent pas trop à quoi s'attendre en venant, mais qui sont embarquées parce qu'ils ont bien détecté qu'il y a une énergie positive sur cette journée et qui du coup se rendre compte qu'au-delà de cette journée fun, il y a un vrai contenu qui est là. Donc oui, c'est souvent le rallye des pépites, c'est souvent une belle surprise et parfois là où on ne s'attendait pas.
C'est le tome 1, du coup j'imagine que vous avez dans l'idée de faire d'autres tomes.
Oui, alors c'est bien l'objectif. On va voir déjà quel est l'accueil que l'on aura sur ce premier tome. C'est plutôt bien parti, mais du coup, si l'accueil est au rendez-vous, l'idée c'est de continuer sur différents tomes et continuer à prêcher la bonne parole par ce support-là.
Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur 8FM pour écouter votre musique préférée.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit, je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui verra son réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit, elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir, j'envie celui qui lui manque au réveil.
Si tu savais comme c'est beau. Tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau.
Elle a laissé son cœur entre nous.
Entre nous et le reste.
Elle a laissé son cœur à genoux.
Sur le sol des promesses.
Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout.
Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Je m'appelle Marie Crespe et je suis maîtresse de conférences en droit privé à l'IUT Bordeaux-Montaigne.
Et l'auteur, du coup, de cette BD, Le droit expliqué aux enfants. Alors, du coup, qu'est-ce qui vous a amené à faire une BD sur le droit? Qu'est-ce qui vous a un petit peu inspiré, donné envie de faire une BD sur le droit, la sensibilisation au droit?
Le droit, la sensibilisation au droit. Merci pour cette formule qui est très, très belle, très juste. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie? En fait, c'est le constat de la nécessité que tout un chacun connaisse le droit, en tout cas dans ses grandes lignes, dans ses grands principes. Le constat aussi que tel n'était pas le cas, donc d'un besoin, d'une lacune dans les connaissances, dans la culture générale de tout un chacun. Alors, de tout un chacun adulte, et puis évidemment de tout un chacun enfant. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas de livre qui explique le droit en tant que système aux enfants. Et c'est vrai que dans mes enseignements, j'ai constaté ou ressenti en tout cas une certaine parfois opposition au droit, une certaine réticence, pardon, des préjugés négatifs. Et je me suis... il m'est apparu évident qu'une partie de ces opinions, de ces préjugés, pouvait être liée à la méconnaissance du droit et au sentiment d'injustice qui peut découler de l'absence de connaissance des règles quand on se les voit imposer de fait, par la force des choses, puisqu'on vit tous dans le droit. Donc à un moment, elles vont s'appliquer de manière plus sensible, de manière plus forte. Et tout ça fait que je me suis dit, mais en fait... Ça ne peut pas fonctionner une société comme ça si on n'a pas tous un petit peu une connaissance basique des règles du système dans lequel on vit. Je me suis dit, c'est pas possible. Et puis voilà, je sais pas, moi d'abord j'adore les enfants. Et quand j'explique le droit au mien, je me suis dit, bon, et les autres alors comment ils font? Alors il y a pas mal de ressources en ligne, notamment où il y a beaucoup d'associations qui travaillent pour défendre les droits des enfants, ça c'est certain, pour expliquer aussi certains droits. Mais pas le droit en tant que système, pas comme on explique le corps humain aux enfants, pas comme on explique l'univers aux enfants. Et voilà, donc c'est de tout ça que m'est venue l'idée et l'envie de réaliser ce projet.
Et passer par la BD, c'est ce qui vous semblait le plus pédagogue, le plus facile pour sensibiliser du coup au droit?
Alors le plus, je ne sais pas, en tout cas indispensable, oui, mais pas exclusif, c'est-à-dire que le livre n'est pas exclusivement illustré par des BD, parce qu'il me semblait nécessaire aussi d'avoir des parties où on explique les choses de manière générale, alors que la BD... Alors, certains livres, effectivement, ne passent que par la BD. Mais dans ce cas-là, je trouve ça difficile, ou en tout cas pour les enfants, d'expliquer des choses générales à travers des petits personnages. D'abord, je voulais poser un cadre. Mais effectivement, après ce cadre général, la BD, elle est indispensable pour mettre en situation, pour amuser aussi, parce que le dialogue... créer l'humour, créer les situations, les mises en situation, les répliques, voilà, l'évolution des personnages, etc. Et puis c'est vrai aussi, les enfants aiment les BD. Alors pas que les enfants, en vrai, la BD, le roman graphique est un art qui progresse fondamentalement. Donc voilà, c'était un... nécessaire et opportun aussi parce que ça touche et ça parle aux enfants, la BD. Voilà.
Comment vous l'avez imaginé, enfin, qu'est-ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur? On fonctionne par question, hein, c'est ça?
Oui, le livre est organisé par 11 entrées, 11 questions, donc 11 thèmes, les thèmes les plus généraux, les questions qu'il me semblait qu'on se posait quand on ne connaît pas le droit. Voilà, alors qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le voir? Où est-ce qu'on peut en prendre connaissance? Qu'est-ce qui se passe quand on ne le respecte pas? C'est un métier, le droit? Enfin voilà, toutes ces questions un peu générales et qui sont censées balayer, donner une première approche pour commencer à identifier le droit. Voilà.
C'est oui un premier socle en fait.
C'est la première étape et effectivement quand j'ai fait ce premier volume, je pensais pas au deuxième volume forcément. J'étais déjà super contente d'avoir mené à bien cette entreprise, cette aventure. Mais en réalité, l'idée de la suite, elle est apparue très vite parce que je me suis dit en fait ça suffit pas. Et puis plein de lecteurs aussi m'ont dit mais et la suite, c'est pour quand? Et il y a d'autres questions qui se posent. Et j'ai dit oui. Et donc, et effectivement, très rapidement, peut-être un mois après, j'ai dit bon, allez, on va faire le deuxième. Enfin, voilà, c'était évident que j'allais passer très vite à la suite. Et la suite, effectivement, après cette première étape, donc vraiment générale, qui pose les bases, qui permet de dégrossir, le deuxième livre va effectivement un peu plus dans la technique du droit. Parce qu'on a posé les bases. Donc on est appuyé sur quelque chose d'un peu concret qui nous situe, on n'est plus perdu. Donc c'est vrai que lire le deuxième avant de lire le premier, alors le deuxième n'est pas encore sorti, hein, il va sortir d'ici un mois et demi, mais j'espère que les gens ne vont pas forcément commencer par le deuxième au risque d'être un peu plus perdu ou de trouver ça vraiment un peu difficile, parce qu'effectivement je pars de l'acquis du premier. Et donc les questions du deuxième sont beaucoup plus juridique. Les juristes qui liront, ça leur évoquera des sujets qu'on apprend à la fac de droit, que je ne nomme pas de la même façon, que je n'explique pas de la même façon, mais qui sont exactement ce qu'on apprend en droit. Donc de manière ludique, accessible aux enfants, voilà, il n'y a pas de... J'emploie pas les mots barbare du droit. Mais c'est pas grave, l'étiquette on s'en fiche. Ce qui compte c'est d'expliquer le contenu, et le contenu il est là. Ouais.
Alors vous avez travaillé avec Clara Lang pour le volume 1, donc comment s'est passé le travail, enfin un duo, puisque du coup vous êtes pas du tout dans cet univers. Comment ça s'est goupillé tout ça?
C'est une aventure, hein. C'est une aventure. C'est un. Chacune a fait un pari assez grand, hein, parce qu'on se connaissait pas, parce que ce qu'on devait créer n'existait pas, donc pas de repères, pas vraiment de modèle. C'était aussi une liberté d'ailleurs, hein, d'avoir un boulevard pour se dire ok, on crée ce qu'on veut, ce qui nous semble pertinent. Mais donc n'empêche que c'était un pari. Et puis parce que c'était une première pour toutes les deux. Moi, j'avais jamais fait de livre avec des illustrations. Clara, elle avait, je crois, jamais vraiment travaillé comme ça avec un auteur. Voilà, donc c'était un vrai pari. Et on a eu de la chance. On est deux jeunes femmes, les plus jeunes que moi, mais deux jeunes femmes intelligentes. Elle dessine très bien. Elle est travailleuse aussi, parce qu'il a fallu vraiment, vraiment travailler. Et elle n'a pas eu peur. Bah oui, on reprend la copie quand ça ne va pas. Donc oui, parfois, c'est aussi un peu fatigant, on se dit stop, en fait on voudrait arrêter, mais non, on va continuer jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on estime de mieux. Donc c'est un travail long, exigeant et en même temps gratifiant, et qui fait sens. C'est-à-dire que Clara, elle s'est lancée dans ce projet aussi parce que le sujet lui parlait, parce que c'est un sujet qui a une utilité, un but social ou d'intérêt général, ou de changer un peu les choses, alors de manière modeste certes, mais n'empêche qu'on est toutes les deux convaincues que la société ou le monde tournerait un petit peu mieux, plus rond, s'il y avait des connaissances un peu plus partagées en ce qui concerne le droit.
Et ce projet, il vous a pris combien de temps à partir du moment où vous avez un peu donné le feu vert et jusqu'à l'édition de la BD?
Longtemps. À peu près 2 ans. Ouais, 2 ans. Alors, on n'a pas travaillé d'arrache-pied pendant 2 ans. Il y a eu des périodes de stand-by parce que l'une ou l'autre, on était prise par autre chose. Puis parce qu'aussi, il fallait laisser le temps au temps. Créer un concept, créer un livre de A à Z. Dans son organisation, dans toute sa dimension pédagogique. Voilà, c'était laisser le temps au temps, laisser le temps de respirer, de créer, de trouver. Voilà, mais le deuxième volume, pas 2 ans. Moi, voilà, maintenant que je savais plus comment faire le livre, quels étaient ses ingrédients, etc., comment ça marche aussi, comment on crée un livre, moi je dors avec, je mange avec, je bois avec, donc il y a eu un moment, en fait j'avais besoin d'être délivrée de ça aussi. Il fallait que ça s'arrête, il fallait passer à autre chose. Donc quand j'ai commencé le deuxième, j'ai proposé à Clara, qui elle était overbookée sur plusieurs mois à venir, donc j'ai dit c'est pas grave, mais comme je veux le faire maintenant, bah, j'y vais. Mais avec l'illustratrice Camouche, donc, qui fait le volume 2, dès le début j'ai dit, moi, si on le fait ensemble, voilà, il faudra qu'il y ait un timing pas trop long. Voilà, alors c'est pareil, hein, tout ça c'est des discussions, on s'entend, et à chaque fois j'ai eu de la chance sur les 2 volumes. Vraiment, c'est des personnes, des illustratrices de qualité, très professionnelles, donc c'est chouette, c'est de la chance.
Je reviens un peu sur le droit expliqué aux enfants. Quel est pour vous l'intérêt d'apprendre si jeune, le droit d'apprendre si jeune, ces bases de droit pour la suite?
Alors déjà, c'est un petit défi, voilà, parce qu'on le fait pas, parce que ça ne se fait pas, parce qu'on part du principe que c'est pas possible, en fait on peut pas apprendre le droit aux enfants. Donc il y a un petit côté défi que je trouve stimulant et intéressant, mais un défi pour un défi, bon, pas trop d'intérêt, mais un défi qui fait sens, encore une fois. Et donc quel est le sens d'apprendre le droit aux enfants? Mais c'est d'en faire des membres à part entière de la société. On leur apprend plein de choses aux enfants. Quand on compare ce qu'on leur transmet comme connaissance aujourd'hui par rapport à ce qu'on pouvait leur apprendre aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande de savoir, mais pas le droit, c'est pas possible. Donc en réalité, ils sont membres actuels de la société, ils ont des droits en tant que personne, ils sont de futurs citoyens, ils sont à un âge où on apprend les règles du vivre ensemble, Et donc, alors, le vivre ensemble ne passe pas que par le droit, mais en partie par le droit, et précisément, qu'est-ce qui passe par le droit ? Qu'est-ce qui ne relève pas du droit ? Quelles sont les limites du droit ? Tout ça me semble mais indispensable de le savoir, alors, à hauteur d'enfant. Mais précisément, on pose des bases, on sème des petites graines, pour tout le monde, déjà. Comme ça, après, chacun, dans sa vie scolaire, personnelle, professionnelle, va étoffer laisser grandir cette petite graine ou étoffer les connaissances qu'il va pouvoir acquérir et les greffer à partir de cette structure que tout le monde aura pu avoir. Parce que c'est effectivement mon idée, c'est que la connaissance du droit soit aussi diffuse que n'importe quel autre savoir qu'on estime logique que les enfants aient. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment que ce soit une sensibilisation populaire, une éducation populaire pour tout le monde. Voilà.
Et comment on peut parler du droit avec ses enfants si on n'a pas forcément la BD? Comment dans la vie de tous les jours est-ce qu'on peut vous disiez planter ces petites graines?
Alors, dans la vie de tous les jours, c'est difficile parce que les adultes qui entourent les enfants, quels qu'ils soient, n'ont pas forcément les connaissances en droit. Donc c'est très difficile en réalité. Mais bon, je me dis que si la génération qui vient avait les connaissances, en réalité ça n'arriverait plus et les adultes de demain pourraient déjà discuter avec leurs propres enfants. Mais alors aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de connaissances en droit, c'est très difficile d'enseigner ou de discuter de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors il faut se renseigner soi-même. Il y a des livres, il y a beaucoup de sites, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour rendre accessible la connaissance du droit, mais ça reste difficile. Alors je sais pas trop comment on pourrait enseigner le droit quand on ne le connaît pas, c'est vrai.
Peut-être finalement lire
alors, un état adulte, les adultes qui le lisent apprécient, oui. C'est très simple, mais beaucoup m'ont dit mais on apprend des choses. Et on en discute avec nos enfants. Ça ressort quasiment systématiquement, les discussions, les échanges. Donc c'est un moment aussi de partage dans la famille, entre amis, à l'école, au centre d'animation, peu importe. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est moi, je ne conçois pas l'enseignement comme déverser un savoir, mais plutôt comme appeler les gens, éveiller les gens à se poser des questions. Voilà. En fait, c'est ça l'intérêt. Et peut-être pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, comment enseigner le droit dans la vie de tous les jours ? En se posant des questions. Est-ce que quelqu'un a le droit de faire ça ou pas ? Comment savoir s'il a le droit ? Est-ce que c'est juste ou pas juste ? Mais qu'est-ce que ça veut dire juste ? Est-ce que le droit définit ce qui est juste ? Comment il le... Voilà. En vrai, je pense que c'est plus ça qu'il faut apprendre à avoir comme réflexe, à se poser des questions, à se donner le droit de poser des questions. Souvent, j'ai l'impression que c'est un peu dans la culture française, on est un peu timide ou complexé, on a peur de poser les mauvaises questions, de dire des bêtises, mais en fait, on ne peut pas dire de bêtises. On dit quelque chose qui est juste ou qui est faux, mais ce n'est pas grave. En fait, c'est gagnant-gagnant dès lors qu'on le dit, parce qu'on va l'éprouver, parce qu'on va le confronter. Et donc, déjà, si on se pose des questions, c'est positif. Et d'avoir la réponse, c'est très bien. Parfois, il n'y a même pas de réponse. Et ça aussi, apprendre que dans la vie, parfois, il n'y a pas toujours de réponse, que ce n'est pas très clair. Et que le droit, notamment, va à l'inverse d'un présupposé qu'on lui attribue. On pense que c'est carré, que tout, qu'il y a réponse à tout. Ben non, dans plein de cas, il n'y a pas forcément de réponse précise. Est-ce que c'est bien ou pas bien qu'il n'y ait pas de réponse précise ? Ça aussi, c'est une autre question. Hein. Voilà, donc la différence entre ce qui relève de l'opinion ou ce qui relève de la vérité. Est-ce qu'il y a une vérité en droit ? C'est une bonne question, mais voilà. Après, donc on n'a pas forcément les réponses, mais peut-être déjà d'apprendre à se poser les questions, oui.
Et une dernière question, est-ce qu'un tome 3 est envisageable ou pas du coup, parce que vous étiez parti pour faire un seul tome et finalement vous continuez?
Il y a largement la place de faire un tome 3, ça c'est certain. Est-ce que j'ai envie de faire un tome 3? C'est certain aussi. Après voilà, quand, je sais pas. Et est-ce qu'il y aurait un tome 4? Ça je suis un peu moins certaine, c'est-à-dire que autant j'ai déjà les idées pour le tome 3, fois, autant après peut-être qu'une fois qu'on a fait le tour avec ce format-là et qu'on a fait le tour des questions principales, d'une introduction au droit, peut-être qu'il sera temps de passer à un autre format ou à un autre sujet en particulier, je sais pas en tout cas, le tome 3, j'espère, oui.
Je suis une intelligence artificielle, mais je suis quand même triste de vous quitter. Mais on se retrouve demain sur 8FM. Bonne fin de nuit à tous.
FM.